d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
She no want no pesticide in a hearting. In a hearting, nah, in a hearting. She no want no chemical in a hearting.
Bonjour à tous. L'Europe épinglée pour avoir vendu des milliers de tonnes de pesticides interdits en Europe à l'étranger. Ils s'appellent paraquat, dichloropropène, cyanamide. Ces produits ultra dangereux, bannis en Europe depuis plus de 10 ans, pour certains déjà, s'exportent toujours. Voilà ce que révèle l'enquête des ONG Unearthed et Public Eye. En 2018, les Européens ont ainsi vendu plus de 80 000 tonnes de pesticides interdits à 85 pays étrangers. Les explications de Jérémy Lanche à Genève.
L'enquête, qui a duré plus de 9 mois, révèle que l'UE a autorisé en 2018 l'exportation de plus de 81 000 tonnes de pesticides interdits sur son sol. En tête du classement des pays, on retrouve le Royaume-Uni avec 31 000 tonnes, suivent l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, la Belgique et l'Espagne. À eux seuls, ils représentent près de 90% des volumes vendus à l'étranger. Du côté des sociétés, c'est le groupe suisse Syngenta qui exporte le plus, avec des usines en Grande-Bretagne et en France. Son produit phare, c'est le paraquat. Laurent Gabrel, de Public Eye, est l'un des auteurs du rapport.
Le paraquat à lui seul représente un tiers des volumes. C'est un pesticide qui est sur le marché depuis 1962. C'est un pesticide qui est si toxique que l'ingestion d'une seule cuillère de cette substance provoque la mort et il n'y a aucune antidote. C'est un pesticide qui est extrêmement fameux pour son implication dans des suicides d'agriculteurs à travers le monde, dans les pays en développement, mais aussi dans de nombreux cas d'ingestion accidentelle, parce que souvent dans ces pays, en Inde, en Chine, les bouteilles de pesticides se trouvent dans les maisons des agriculteurs, très facilement accessibles par les enfants et souvent, voilà, ça provoque des drames.
Le groupe Syngenta doit maintenant faire face à des plaintes d'agriculteurs aux États-Unis qui accusent le paraquat de leur avoir déclenché la maladie de Parkinson. Le Brésil doit également l'interdire ce mois-ci. Parmi les gros utilisateurs de ces substances, on retrouve aussi le Maroc et l'Ukraine, deux pays qui exportent massivement leur production agricole vers l'UE, y compris celle où on retrouve des traces de ces pesticides interdits. C'est ce qui s'appelle marcher sur la tête, explique encore Laurent Gabrel.
L'ironie de l'histoire, c'est que finalement, les principaux pays vers lesquels on exporte nos pesticides interdits, les États-Unis, l'Ukraine, le Brésil, sont aussi les principaux exportateurs de denrées agricoles et alimentaires vers l'Union européenne. Les importations de denrées produites avec des pesticides interdits ne sont pas permises en Europe, mais à nouveau, il y a des exceptions et la Commission européenne peut octroyer ce qu'on appelle des tolérances d'importation qui permettent que des denrées qui contiennent des résidus de pesticides interdits en Europe soient quand même commercialisées sur le marché européen.
Contacté, le Suisse Syngenta s'est défendu en affirmant que le secteur est l'un des plus réglementés au monde, que les produits utilisés le sont pour des cultures bien précises, qu'il accompagne même les agriculteurs pour leur apprendre à stocker et à manipuler ces substances en toute sécurité. Mais l'argument principal, c'est celui de la loi. Toutes les entreprises visées par l'enquête répètent qu'elles ne font que respecter la réglementation en vigueur dans les pays où elles vendent leurs produits. Un argument massu, mais jugé non recevable par Public Eye, qui dénonce l'influence des groupes agrochimiques sur certains gouvernements.
On l'a vu beaucoup au Brésil, par exemple, où toutes ces compagnies sont derrière une proposition de loi qui est actuellement débattue au Parlement pour encore affaiblir les protections existantes. On l'a vu aussi quand on a parlé aux experts en Ukraine, qui nous disent qu'en Ukraine, toute cette industrie, elle est derrière un lobbying extrêmement fort pour empêcher l'interdiction de substances dangereuses. C'est ce qu'on voit de manière répétée partout, finalement, en Inde, en Afrique. Donc, c'est quand même assez gonflé de leur part de nous dire que partout où ils opèrent, ils respectent ces lois nationales alors qu'elles sont souvent faites sur mesure pour leurs besoins.
L'Union européenne, de son côté, affirme qu'elle ne peut pas empêcher la vente de ces produits au nom de la liberté d'entreprendre. Mais certains États commencent à prendre la mesure du phénomène. C'est le cas de la France qui va interdire à partir de 2022 la production et l'exportation de substances chimiques interdites en Europe, malgré le recours des industriels qui ont été désavoués par le Conseil constitutionnel.
On reste en Suisse où les électeurs sont appelés à se prononcer sur une question un peu particulière la semaine prochaine. Faut-il renouveler les avions de combat qui seront inutilisables dans une dizaine d'années ? Et on en parle avec vous, Sacha Mitchell. Bonjour.
Bonjour, Léa-Lisa.
Vous nous parlez des grands sujets européens repérés par le courrier international cette semaine. Et cette question, renouveler ou non le stock d'avions de guerre, divise en Suisse.
Oui, l'Europe occidentale n'est quasiment plus concernée par les formes de combat conventionnelles. Alors à quoi bon garder de telles armes qui coûtent cher, qui polluent et qui ne servent quasiment pas? C'est une position que défendent les opposants, notamment à gauche, au renouvellement de la flotte aérienne suisse. Il y aurait 1000 débats à mener en priorité, assure Le Courrier à Genève, du féminisme à l'antiracisme, en passant par les questions sociales et climatiques. Mais non, les électeurs sont appelés à décider s'il faut investir près de 6 milliards d'euros dans des appareils bardés de nouvelles technologies, grince le journal. De l'autre côté, dans le camp du oui, on estime que l'investissement est nécessaire. La Suisse est historiquement neutre, certes, mais il faut bien qu'elle puisse se défendre, c'est ce que dit le temps. Dans un monde où les tensions militaires, le délitement des accords d'armement et nucléaire se multiplient, les avions de combat sont indispensables, assure le journal de Lausanne. Alors certes, les avions ne serviraient à rien en cas de cyberattaque, l'une des menaces les plus importantes à l'heure actuelle, mais sait-on jamais, mieux vaut être prudent, une attaque militaire n'est jamais à exclure. D'ailleurs, chez les partisans du non, on ne nie pas entièrement la menace. Pour Le Courrier, un État souverain crédible a besoin de mener des missions de police de l'air. La question, elle est ailleurs. Elle est plutôt de montrer l'exemple, conclut le quotidien de Genève. Entourée de pays amis prêts à la défendre, la Suisse ferait mieux d'accrocher ses espoirs ailleurs que dans 40 avions. Les Helvètes deviendraient alors les figures de proue d'une nécessaire désescalade militaire et œuvreraient au passage pour la paix mondiale.
Direction le nord de l'Europe maintenant, en Écosse, où Brexit rime avec exit. De plus en plus d'électeurs aimeraient en effet pouvoir eux aussi se prononcer sur une question qui revient en force, l'indépendance.
Oui, les sondages se suivent et se ressemblent ces dernières semaines en Écosse. Tantôt 53%, tantôt 54% et même jusqu'à 55% de oui à la sécession. Une telle régularité en faveur du oui, c'est tout simplement du jamais vu depuis le référendum de 2014. À l'époque, une majorité d'électeurs avait choisi de rester dans le Royaume-Uni, mais 6 ans plus tard, deux événements sont venus rebattre les cartes, nous explique le Financial Times. Le Brexit, d'abord, les Écossais ont largement voté pour rester dans l'Union européenne et ils en sont sortis à contre-cœur en début d'année avec le reste du Royaume-Uni. Et puis le Covid-19 ensuite, malgré un bilan humain peu reluisant, le gouvernement local écossais, dirigé par les nationalistes, a mieux géré l'épidémie aux yeux de la population. Les messages de la première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, étaient clairs et précis, loin de la pagaille et des contradictions de Boris Johnson à Londres. Un autre facteur peut d'ailleurs expliquer cette envolée du oui dans les sondages, l'impopularité des conservateurs de Johnson en Écosse. Des conservateurs qui tentent d'ailleurs par tous les moyens de sauver les meubles. Boris Johnson a passé ses vacances en Écosse cet été et les visites de ministres dans la région se multiplient depuis quelques semaines.
La partie semble en fait quasi perdue pour Londres.
Et bien ça se complique, oui. Les élections locales doivent avoir lieu en mai prochain et si les nationalistes l'emportent largement, comme c'est prévu, Johnson aura beaucoup de mal à refuser la tenue d'un nouveau référendum, prédit le Financial Times. Ce ne serait en réalité qu'une question de temps avant de voir l'Écosse prendre son envol, d'autant que la jeune génération est massivement pro-indépendance, d'après les sondages. Dans The National, journal proche des nationalistes, un chroniqueur ose même la comparaison avec Peter Pan. Contrairement au petit garçon, né sous la plume d'un écrivain écossais, la nation écossaise, elle, a envie de grandir.
Enfin, Sacha, notre tour de la presse européenne prend fin en Grèce, déjà compliqué pour tout le monde à cause des mesures sanitaires. La rentrée des classes a pris là-bas un tournant assez comique.
Oui, Léa Lisa, les journaux locaux rient jaune cette semaine. Pour leur retour à l'école, les écoliers grecs ont obligation de porter le masque, tout comme leurs enseignants d'ailleurs. Du coup, les pouvoirs publics en ont fourni gratuitement, vous savez, les masques en tissu réutilisables. Seul problème, gros problème, les masques sont beaucoup, mais alors beaucoup trop grands pour les enfants, au point de leur recouvrir tout le visage. Et sur les réseaux sociaux, les internets grecs s'en donnent à cœur joie. Ils ont oublié les trous pour les yeux, s'amuse l'un d'entre eux. Ces masques ont été faits pour un cyclope, ironise un autre. Alors on rit, mais le ministère de l'éducation a été contraint de s'excuser, nous apprend le journal de référence Tanea. En fait, il y aurait eu un bug dans la commande, une erreur de dimension se serait glissée dedans sans que personne ne vérifie avant la distribution dans les établissements scolaires. Une erreur quand même qui a coûté 6,1 millions d'euros aux contribuables.
Merci Sacha Mitchell. Et on le rappelle, en Grèce aussi, l'épidémie semble rebondir avec plus de 300 cas par jour contre un nombre proche de zéro lors de la réouverture des frontières en juin dernier. Et après l'école, l'autre domaine particulièrement touché par les restrictions sanitaires liées à l'épidémie du Covid-19, c'est le monde du spectacle. En Belgique, alors que les salles de théâtre sont restées fermées pendant des mois, dans la capitale bruxelloise, des danseurs ont décidé de proposer un spectacle payant, mais à l'extérieur du Théâtre Royal Flamand. Pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, ils dansent seuls et à l'air libre. Lax-Milota.
Ils dansent derrière le théâtre, dans la cour. Ces artistes ont tous eu une représentation annulée cet été pour cause de coronavirus. Les danseurs ont donc préparé un show en solo durant le confinement. Bien sûr, il y a les voitures qui circulent, les passants, le bruit de la ville. Matteo Seda, danseur.
C'était particulièrement difficile pour ce show parce que je dois rester concentré. Alors les voitures, les gens qui passent, oui, ce n'était pas évident.
On voit Matteo Seda comme bloqué sur un tapis de course de salle de sport. Il marche sur place pendant 20 minutes. Sur scène, les danseurs racontent des corps contraints qui tentent de se libérer. Les chorégraphies semblent rappeler l'obligation du masque, les gestes qui sont devenus nécessaires, comme se laver les mains sans cesse. Brianna Stuart réalise des percussions corporelles, parfois en écho avec le public. Pour cette danseuse américaine, le contexte du Covid-19 est propice à la création.
On peut faire les choses ensemble, même si le Covid est là. L'art, en général, c'est pour la connexion. Ça, c'est la base. Malgré le Covid, on peut trouver un moyen. Parce que dans l'histoire, depuis le début, les artistes ont trouvé un moyen de faire quelque chose avec l'un l'autre pour être connectés. Quand on a moins, on peut faire plus.
Les spectateurs ont acheté leur place au Théâtre Royal Flamand. Ces solos ont été créés alors qu'il n'était plus possible de faire des représentations dans les salles. Mais depuis début septembre, en Belgique, les spectacles à l'intérieur sont à nouveau autorisés avec un public de 200 personnes maximum.
Et en Italie, les difficultés sont les mêmes, ou presque. Les discothèques, par exemple, qui avaient un temps rouvert, ont dû tirer leur rideau mi-août, accusés de provoquer des attroupements sans gestes barrières. Les salles de spectacle, elles, sont toujours soumises à des normes drastiques pour recevoir du public. Jauge limitée, distanciation physique et port du masque obligatoire. Alors pour continuer à vivre et créer en dépit des contraintes, une troupe de théâtre de Palerme a eu une idée, organiser son spectacle en plein air, dans un espace public, en donnant à écouter le texte des acteurs dans des casques audio. Le reportage de Cécile Debarge.
Bienvenue à tout le monde. Comme vous le savez, c'est la répétition générale du spectacle Les Occasions. C'est un spectacle un peu particulier car vous entendrez tout à l'aide d'un casque. Avant de commencer, je vous en distribuerai un chacun.
Devant le metteur en scène Emilio Iovalassi, une quinzaine de spectateurs se tiennent debout, prêts à déambuler derrière les comédiens. Le cadre est magnifique, la Villa Filippina, un parc entouré de grands murs surmontés d'arcades en plein cœur de Palerme. Le début de soirée offre une fraîcheur bienvenue dont certains profitent ailleurs dans le parc pour un cours de yoga sur l'herbe ou pour organiser une projection de cinéma en plein air.
C'est bon, vous pouvez mettre les casques et bon voyage à tous.
Une comédienne apparaît vêtue d'une tunique blanche, ses mouvements accompagnent la tombée de la nuit. Tout est silencieux dehors, le texte est récité dans le casque où la musique laisse place à une première voix. Preziosa Salatino est la co-directrice du Théâtre Atlante qui a réalisé et produit ce spectacle en mouvement.
Étant donné qu'on a une toute petite salle de théâtre, on ne peut pas recevoir de public avec les actuelles restrictions de Covid. Donc, sachant que c'est la saison estivale, on a préféré profiter des espaces en plein air.
Pendant 7h30 de théâtre, les buissons se transforment en sous-bois où se promène le loup. Les arcades aux colonnes ocre délimitent le château de cette princesse imaginaire. Emilio Iovalassi, metteur en scène.
Nous, d'habitude, on fait des spectacles en plein air, mais ce sont des spectacles qui prévoient de gros attroupements. Ce n'était évidemment pas possible avec les restrictions sanitaires. Donc il fallait imaginer un spectacle en plein air tout en maintenant la distanciation physique.
La solution, c'est le casque, explique la co-directrice du théâtre Preziosa Salatino.
Dans tous nos spectacles, on cherche à créer une intimité avec notre public. On ne voulait pas se retrouver à faire un spectacle où tout le monde est éloigné, distant les uns des autres. Donc on a eu cette idée du casque, car comme ça, les gens sont isolés, mais ils sont ensemble. Ils forment une communauté et nous, on peut interagir avec eux.
Le défi est de taille. Pour les comédiens, il s'agit de travailler le jeu séparément du texte sur scène. Pour Tiziana Barcarello, qui a assisté à cette première représentation, le pari est réussi.
En s'immergeant dans l'histoire, on ne fait même plus attention et on rentre dans le spectacle sans tenir compte de ce qui se passe autour.
Pendant la représentation, le narrateur invite aussi les spectateurs à participer, un par un. Une façon d'illustrer la portée philosophique de certains passages, comme lorsque chacun est invité à accrocher un petit nœud de tissu autour des branches d'un arbre, en se concentrant sur un vœu qui lui est cher, contrairement au personnage principal qui laisse passer toutes les occasions les unes après les autres. Cette démarche a beaucoup plu à Tiziana Barcarello.
Ça a été très fort pour moi. Je réussissais à suivre la voix et la ressentir dans l'interprétation des acteurs et ça m'a vraiment émue. Peut-être même plus qu'un spectacle normal.
Chaque représentation accueille 30 spectateurs. Les deux premières ont été réservées en quelques jours à peine. La petite troupe du Théâtre Atlante compte se produire ainsi jusqu'à la fin de l'été, voire jusqu'à début novembre si la météo est clémente, conscients qu'ils ne pourront pas reprendre le chemin de leur petite salle de spectacle de sitôt.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
C'est vendredi, place à la musique avec vous Vincent Théval, bonjour.
Bonjour Léa-Lisa.
Au menu aujourd'hui, un peu de nostalgie avec Alice Brent, du chanteur allemand de l'âge.
Si vous êtes sensible à la mélancolie des premiers jours de l'automne, le deuxième album de Delage pourrait bien devenir la bande originelle de vos prochaines semaines. Delage, c'est le projet d'un musicien allemand, quasi trentenaire, Till Hormann, installé depuis quelques années à Amsterdam, où il a enrôlé deux autres musiciens pour donner corps à des chansons qui explorent le sentiment amoureux sur son versant le plus amer. Voix monocorde, basse, clavier, guitare et boîte à rythme tricotent des mélodies qui restent longtemps en tête, réunies sous un titre à la fois drôle et désabusé, Twist and Out.
Fest an dir in kurzer Einigkeit bis zum nächsten Zeitvertreib. Alles brennt in mir bis zum Nachhinein. Nur du mir, so ich dir. Der Versuch, dich zu begreifen, ist Versuchung zum Verzweifeln. Mich fest an dir, lass es uns beide finden, das scheint uns zu verbinden. Alles brennt in mir, ich summe nach und ein, so du mir, so ich dir. Sei jetzt still, denn die Ruhe bewahrt den Will, Schönheit zu erzwingen. Zu durchbringen, halt dich fest an mir und ich halt mich fest an dir, bis zur nächsten Überflutung von Verwirklichungsversuchen. Alles brennt in mir.
On se quitte avec Delage sur RFI. Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Aujourd'hui, on se retrouve dès lundi en direct et sinon à toute heure et partout via notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À lundi.